Bonjour à tous, on se retrouve sur Fulguropop avec Nicolas. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Donc on se retrouve pour parler d'un sujet passionnant, James Bond, et on a décidé d'attaquer ce vaste sujet par l'angle des méchants. Alors pourquoi les méchants? Parce que comme tout bon héros, il se mesure à la valeur de ses adversaires. James Bond, c'est à la fois des acteurs mémorables, hein, de Sean Connery à Daniel Craig, mais c'est aussi une galerie de portraits entre Ulrich Goldfinger jusqu'à le personnage incarné par Javier Bardem dans Skyfall, des méchants parfois un peu moins réussis, parfois un peu plus mous, comme celui joué par Matthew Amalric récemment encore avec Daniel Craig. Vraiment les montagnes russes chez les méchants au sein des sagas James Bond, mais aussi une expérience de téléspectateurs et de spectateurs à vivre quand on se plonge dans les James Bond, on peut penser qu'aux méchants. Moi, je dois avouer que j'ai des souvenirs d'enfance, on en a parlé à l'époque avec Nico assez fréquemment sur notamment la grande époque de James Bond de Roger Moore, avec des méchants très très charismatiques comme Requin. Et je pensais que avec un spécialiste comme Nicolas dans la rédaction de Fulguropop, c'était un moyen très très intéressant de faire le point sur ce sujet passionnant, les méchants dans James Bond. Alors tout de suite, on est parti. Nicolas, alors toi, comment toi tu aperçois, comment toi tu ressens cette question du méchant? Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on a fait un podcast il y a quelques temps sur les méchants de Batman. C'était un sujet assez intéressant qui nous a posé aussi la question du rapport de Spider-Man à ses méchants. Et aujourd'hui, on réfléchit sur James Bond. À toi, Nicolas.
Alors bon, merci beaucoup de me présenter comme un spécialiste. Je suis un simple amateur éclairé, je l'espère, mais bon, pas de prétention de ma part du tout à ce sujet. Je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que le méchant définit en partie la qualité du film. Hein, comme disait Hitchcock, more successful the villain, more successful the movie. Cela dit, beaucoup de gens hein, se sont penchés sur la question du méchant. Alors le méchant, le scélérat, le méchant, le vilain, le vilain, enfin je ne sais pas trop ce qu'il faut dire. Méchant, c'est peut-être finalement très commode. Je sais qu'il y a eu un bon livre en 2010 qui s'appelait Bond Villains. Et puis, il y a aussi le livre de Colette, plus récent, qui date de 2014, sur les ennemis de James Bond. Bref, c'est un sujet. Et je crois que pour le traiter peut-être de manière plus originale que d'habitude, on pourrait prendre ce sujet comme un tout, l'interpréter donc comme une sorte de corpus, les méchants et leurs acolytes, hein, si j'ose dire, et voir si ce tout peut être interprété ou compris selon des prismes différents ou des schémas différents, empruntés ou pas à des auteurs qui ont travaillé par ailleurs hein, sur la littérature. Je pense qu'on peut en voir plusieurs, et d'ailleurs, sans doute, les lecteurs de Fulguropop et les auditeurs en trouveront par eux-mêmes, en tout cas, je le souhaite, j'espère. Le premier, à mon avis, qui vraiment tombe un peu sous le sens, je crois que c'est le schéma de la conspiration. En plus, conspiration, ça fleure, heureusement, malheureusement, le complotisme, donc c'est quand même aussi dans l'air du temps. Mais dès le début de James Bond, je crois que ce schéma s'est imposé. Après, d'autres schémas peuvent apparaître. Alors, celui des alliances ou des renversements d'alliances entre le méchant, ses acolytes et évidemment James Bond. Le schéma du jeu avec les piliers de la licence, car il y a des choses qui sont très attendues, parfois avec lesquelles les producteurs vont s'amuser pour relancer éventuellement l'intérêt. On pense au début hein, de la période Craig, bien sûr. Et pourquoi pas aussi le schéma Eros-Thanatos, une dichotomie classique, en tout cas en littérature, mais qui se retrouve beaucoup dans James Bond. Alors, si tu es d'accord, on peut peut-être commencer par celui de la conspiration, parce que je pense que c'est plus intuitif.
Allons-y.
D'accord? Bon, bah écoute, on tente alors la
Moi, j'y
chose.
vais.
En regardant, en ayant en tête, hein, en tout cas, les vilains, leur succession, alors peut-être quand même en ignorant, parce qu'on n'en sait pas grand-chose, le dernier, Safin, qui sera joué par Rami Malek, je crois qu'on ne peut pas en dire grand-chose, dans la mesure où il semble associé ou opposé à Blofeld, dont lui, par contre, est une figure vraiment récurrente sur laquelle on pourra parler, je crois. Donc, le schéma de la conspiration, si on veut commencer par celui-là. Alors, je crois sans me tromper que James Bond n'affronte jamais, dans aucun des films de la série officielle, un antagoniste isolé. Alors, abstraction faite des auxiliaires, mais il s'agit soit des membres d'une organisation secrète, soit d'un cerveau qui forme un duo avec un antagoniste de façade, si j'ose dire. Si on veut un peu plus rentrer dans les détails, pour ce qui concerne l'organisation secrète, évidemment, c'est Spectre, à l'anglaise, pour la période Connery la zombie et pour la période Craig, puisque l'idée a été reprise récemment, mais au prix, je pense, d'ailleurs, d'un truc ou d'une pirouette scénaristique. Alors, exception faite de Goldfinger, parce qu'en fait, Auric Goldfinger est considéré comme un agent d'une organisation menée par Blofeld dans GoldenEye Rogue Agent, donc le jeu vidéo seulement. Mais dans le film, il est indépendant en réalité, il n'est pas du tout accroché, si ce n'est par le biais d'une promotion, en particulier d'une affiche, mais pas dans le scénario. Donc pour les organisations secrètes ou l'organisation secrète Spectre, on est vraiment là dans le schéma période la zombie, période Connery, période Craig. En revanche, le cerveau en duo avec un auxiliaire qui serait un antagoniste plus ou moins de façade, alors c'est en partie vrai pour toute la période Moore Dalton. Alors c'est vrai absolument pour Octopussy et The Living Daylights, peut-être un peu aussi pour The Man with the Golden Gun, mais pour la période Brosnan, c'est pas toujours vrai. Ça l'est dans le deux cas, sur quatre, ce qui fait quand même la moitié. D'abord, It's Not Enough, et éventuellement GoldenEye. Donc finalement, si on fait le compte de toutes les périodes, c'est vrai, ce schéma, dans plus d'un cas sur deux, 13 à 15 cas sur 24, ça fait quand même un bon score. Mais tout à l'heure, j'évoquais le prix hein, qu'il fallait payer pour cela. En fait, deux fois, c'est au prix d'une sorte de rétrocompatibilité scénaristique. Spectre, finalement, n'est véritablement posé comme tel dans la période Connery la zombie qu'à partir de From Russia with Love. Et pour la période Craig, c'est seulement à partir du dernier en date, c'est-à-dire de Spectre. Donc, on a quand même tendance à pouvoir penser que ce n'était pas forcément vraiment prévu, d'une part, et que d'autre part, ça permet de relancer l'intérêt du public par le biais d'une continuité, en quelque sorte, et surtout de pouvoir ensuite alimenter, si j'ose dire, le pool de vilains grâce à des personnages qui seraient rattachés à cette organisation. Cela dit, l'ennui, c'est que ça ravale des personnages comme Dr. No ou Mr. White au rang d'agents, alors que Dr. No est clairement présenté dans le film comme quelqu'un d'indépendant, voire d'associé au Tong, en tout cas un certain Tong, puisqu'on comprend que sa fortune est liée à un vol, pas du tout à Spectre. D'ailleurs, on peut regarder de nouveau les films dans le détail des motifs. Les motifs de Dr. No, ils ne semblent pas complètement associables à ceux de Spectre. Ceux de Mr. White, davantage, en revanche. Bon,
Oui, mais
dans les romans, si
c'est
on
assez.
termine
Je me
la...
permets.
Oui, pardon, vas-y.
Mais je me permets de t'interrompre parce que c'est
Bien sûr, bien sûr.
intéressant ce que tu fais sur le parallèle que tu fais entre la création de Spectre, enfin, l'intégration de Spectre dès le troisième film. From Russia with Love, c'est le deuxième.
C'est le deuxième, oui.
C'est le deuxième. Alors que Spectre, qui est le quatrième avec Daniel Craig, on a déjà des conspirations qui sont en toile de fond et qui semblent assez complexes. Mr. White, qui apparaît dans quasiment tous les films, Quantum, qui est donc l'organisation qui semble avoir des ramifications mondiales avec des représentants, y compris au plus haut sommet de l'État britannique. Sont déjà des formes de conspiration qui sont reprises dans une conspiration plus large où émerge donc d'où émerge Blofeld. Alors après moi j'ai quelques réserves sur la façon dont Spectre a traité le Blofeld et l'a rattaché à l'enfance de Bond. Mais je trouvais le propos plus osé que dans les années 60, où finalement tu rattaches espèce d'organisation, ça te crée ça c'est un peu comme The Man from U.N.C.L.E. T'as besoin d'avoir des organisations. L'intérêt de From Russia with Love, c'est que ça introduit une dimension géopolitique beaucoup plus forte que dans Dr. No, où tu as l'antagonisme Est-Ouest, certes, mais aussi le jeu des proxys entre la Turquie, la Bulgarie et cette opération, enfin cet opérateur, cette agence criminelle internationale qui essaye de jouer sur les deux tableaux, qu'est Spectre, et qui introduit une forme de nouveauté dans le cinéma à l'époque. Enfin, j'ai trouvé, avec le recul de jeune spectateur dans les années 70-80 et puis actuel aujourd'hui. Et je trouve que c'était plus intéressant la façon dont ça a été fait à l'époque qu'aujourd'hui. Mais je peux peut-être être un peu sévère avec le cinéma moderne.
Non, non, mais je suis un peu d'accord avec toi. Alors, et d'ailleurs, tu as raison, hein, la conspiration, en effet, elle est posée très tôt. On a l'impression, genre avec Craig, hein, on a l'impression d'ailleurs d'une sorte d'emboîtement un peu de poupée russe, et on en arrive à Spectre assez logiquement. Bah, je te rejoins aussi sur la manière de traiter Blofeld, qui, à mon avis, n'est peut-être pas la meilleure. Enfin bon, c'est toujours évidemment facile de critiquer de son siège de spectateur, mais par rapport à ce qu'on aurait pu attendre, surtout avec un acteur comme celui qui a été choisi, bon, je crois qu'il y a eu peut-être un coup de raté. Mais en fait, j'ai l'impression qu'au cinéma, ça a été plus artificiel d'arriver à Spectre dans la période Connery que dans la période Connery la zombie, que dans la période Craig. Dans les deux cas, on est sur ce truc de la rétrocompatibilité scénaristique, parce qu'en fait, on est en décalage, un décalage étrange d'ailleurs, par rapport aux romans. Parce que dans les romans, Spectre apparaît bien, mais peu, seulement trois fois, et d'abord dans Thunderball. Alors que Thunderball, c'est seulement le troisième des conneries, le quatrième, que dis-je d'ailleurs. Et finalement, on est un peu en décalage, parce que Spectre doit aussi réapparaître dans les romans ensuite deux fois, Honor Resisting Secret Service et You Only Live Twice. Et finalement, dans les films, bon, évidemment, il est présent dans le La Zombie, mais You Only Live Twice, bon, on a l'impression que là, on est sur quelque chose de très comics, et Spectre a perdu sa valeur. Je crois qu'il y a eu confusion, en fait, voulue d'ailleurs, dans les films entre Smersh et Spectre. Et Smersh, en revanche, apparaît quatre fois dans les romans et dès les premiers. Et en l'occurrence, From Russia with Love, c'est pas Spectre dans les romans, c'est bien Smersh. Et on sent que le film a voulu créer la confusion pour peut-être amener assez vite à la rétrocompatibilité. Et d'ailleurs, Goldfinger dans les romans, c'est aussi Smersh. Smersh, qui est une organisation des services secrets soviétiques, hein. Et qui est d'ailleurs
Et
une
qui est la
expression, enfin
contraction
juste.
de Smert-Spionem,
Oui, c'est absolument, c'est ça. Ouais,
qui est
mort aux
repris
espions.
dans
Ouais.
des voilà qui est repris dans la licence dans la franchise James Bond plus tard.
Ah, tout à fait, repris à la période Moore Dalton dans Leading the Lights, puisque ça commence par une pré-générique, enfin une séquence pré-générique où quelques agents finissent, sauf James Bond d'ailleurs, finissent tous tués avec
C'est ça.
cette expression qui est reprise, mais pour couvrir en fait un trafic d'armes en réalité.
C'est ça, c'est l'espèce de Maskirova soviétique, enfin de rogue, enfin de. C'est assez intéressant, moi, ce que je trouve de cette partie de la Zenbi connerie,
Oui.
c'est que c'est la singularité, justement, au service secret de Sa Majesté, à plusieurs endroits. D'abord parce que Blofeld est physiquement confronté. À James Bond dans leur rencontre, ils se font face, il y a une espèce de jeu d'acteurs, de jeu de dupes entre eux, que bah, c'est le seul film de la zombie et que c'est le film où James Bond se marie.
Amour.
Comment?
Non, je te disais par amour, parce qu'il s'est marié, ou il
Oui,
va se marier, ça dépend comment on voit la chronologie,
c'est ça.
dans You Only Live Twice, mais par obligation.
Par obligation, et You Only Live Twice, comme tu le disais, c'est un film un peu à part aussi. Hein.
Oui,
Sa situation,
absolument.
alors on ne vit que deux fois, ça se passe au Japon. On a des, enfin, le film avec le volcan est absolument. On est dans quasiment la caricature de James Bond,
Oui.
notamment avec la débauche de gadgets.
Oui.
C'est pas mon James Bond préféré, mais c'est vrai qu'il a certains côtés bon, très très datés au point de vue de la présentation de la société japonaise et du point de vue du visuel, mais c'est un film un peu moins connu, je pense, et qui mérite pas plus que ça d'être connu,
Alors
mais il me
que
semble.
bon, on est quand même en plus sur largement une trahison du roman, parce que là aussi il y a une confrontation entre Blofeld et Bond très forte dans le roman, beaucoup plus hein, que dans le film, et qui se passe à travers un jardin que Blofeld s'est créé, et où il a réussi à réunir que des plantes mortelles dans un pays où, alors c'est Ian Fleming qui exagère un peu les choses, mais il a senti quand même une tendance, de manière japonaise très forte, dans un pays où le suicide est quelque chose qui est pas, qui est socialement admis d'une certaine mesure, quand on a perdu son honneur au point qu'on ne peut plus vivre. Et Blofeld joue de ça. Et ça, c'est une dimension qui a disparu parce que dans le film, clairement, on est, oui, tu l'as laissé entendre, une forme, peut-être pas de caricature, mais en tout cas de carte postale, en particulier sur le statut de la femme, qui était quand même pas aussi dégradant à l'époque, en tout cas d'après ce que j'en sais, et sur le reste aussi. Enfin voilà, James Bond qui est capable de boire son saké à la température exacte, au degré près. Bon, c'est peut-être pas très utile, et on est beaucoup là-dedans à se complaire dans ça ou dans la fameuse base de fin de film. On est carrément sur la période Moore avant l'heure, quoi. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que moi j'en ai. Hein.
C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, c'est le dernier de, enfin, c'est la première partie de la carrière de Connery James Bond, avant la pause de la Zenbee.
Absolument.
Je pense le chant du cygne de la période
C'est
de
ça, oui, on
Connery.
était sur la fin. Il était temps de changer. Tu veux
Complètement.
peut-être qu'on tente le deuxième schéma, celui des
Ah bah oui.
renversements d'alliance?
Et généralement, ça nous apportera encore un éclairage sur la vision des femmes dans James Bond, je pense. Mais...
Oui, alors absolument, parce que la place de la femme ou le statut de la femme, enfin je ne sais pas trop comment on peut l'appeler dans les James Bond, a été beaucoup décrié, notamment ces derniers temps, et parfois à juste titre, mais en fait il est peut-être pas aussi caricatural que ce qu'on pourrait croire, et il est peut-être pas forcément aussi dégradant que ce qu'on pourrait croire, pardon, dans les premiers films, ceux des années 60. En fait, si on veut poser rapidement ce schéma qui n'est pas le plus compliqué loin de là. C'est très simple. Bond est rarement seul, quasiment jamais seul, à mener sa mission à bien, et donc va jouer d'alliance, parfois opportuniste, parfois ponctuel, parfois moins, et il peut être confronté à des vilains, des méchants, des antagonistes qui peuvent se présenter d'abord comme des alliés, ou au contraire, l'affronter avec l'aide d'un allié qui lui-même va se présenter d'abord comme un ennemi. Donc, sorte de jeu de masque qui finit toujours, évidemment, à l'avantage de James Bond, mais qui peut durer un certain temps, créer des quiproquos, des malentendus scénaristiquement intéressants. Alors, la première situation, c'est-à-dire que Bond va affronter un antagoniste qui va se présenter comme un allié, elle est vraiment propre à la période Moore-Dalton et à la période Brosnan. On ne la trouve pas ailleurs. Et le quiproquo n'est vraiment durable que dans deux cas, à ma connaissance en tout cas, dans le cas de Christatos, donc For Your Eyes Only, qui se présente longuement comme quelqu'un qui va aider James Bond pratiquement jusque trois quarts du film. Et le deuxième cas, c'est l'Electra King. Donc là, c'est la période Brosnan. The World is Not Enough. Donc il y a un cas intéressant parce que là, on est sur un personnage féminin d'une part. Et d'autre part, sur un personnage qui, avant la période Craig, avant Skyfall, établit une relation particulière avec le supérieur hiérarchique de Bond, c'est-à-dire M. On sent bien que King se présente peut-être pas comme la fille adoptive, mais il y a une relation quand même assez filiale, et elle en joue. Elle en joue pour quoi faire? Ben pour trahir M, et accessoirement pour trahir Bond, dont elle se fait l'amante, d'ailleurs. Mais ce schéma ne dépasse jamais ces deux périodes. En revanche, l'autre situation, c'est-à-dire Bond va affronter son ennemi avec l'aide d'un allié qui lui se présente d'abord comme un ennemi, elle est propre aux autres périodes. C'est-à-dire, alors, la période Connery la Zombie pour commencer, et la période Moore Dalton revient cette fois-ci, malgré tout, et ça concerne la Bond Girl deux fois sur trois. Donc, une fois de plus, le statut de la femme, il n'est pas exactement celui qu'on pourrait croire quand on caricature hein, les premiers James Bond et même les suivants pendant qu'on y est, en particulier ceux de la période Moore, parce qu'on a l'impression que Roger Moore, il est un séducteur patenté et c'est une impression qui n'est pas complètement fausse. Mais en réalité, la Bond Girl peut très bien avoir un rôle important et flouer James Bond assez longtemps. En fait, si on fait le bilan de ces deux situations, donc de ce schéma de renversement des alliances, il n'y a qu'un cas où l'allié masculin tue l'antagoniste. C'est celui de Colombo, donc on revient, alors pas évidemment celui sur lequel Umberto Eco a travaillé, c'est For Your Eyes Only, la colombe, hein, comme on dit dans la version française, qui va tuer Christatos, alors que Bond aurait quand même tué Stavro Blofeld dans la séquence pré-générique. C'est une séquence un peu malheureuse, à plus d'un titre, où on voit à peine Blofeld, on devine que c'est lui, étant donné son crâne chauve, et donc c'est l'imagerie qu'on a créée jusque-là, sa tenue, mais il est abîmé, il est diminué parce qu'il est sur une chaise, donc on imagine que c'est la succession, la suite directe de Honorable Emergency Secret Service, et il est en train de téléguider là, son hélicoptère pour attaquer James Bond. Bon, on est quand même sur une version très particulière hein, de James Bond. D'ailleurs, Roger Moore lui-même avait dit qu'il avait pris le personnage comme un personnage de comics. Donc je pense que quand on en est là de l'interprétation, c'est qu'on a vraiment, peut-être pas caricaturé le personnage, mais en tout cas, on l'a largement dénaturé. Et Bond, maintenant, en tout cas, cette période-là qui va bientôt se conclure, la période Craig, il est moins aidé hein, qu'il ne l'a été dans ses débuts. À ses débuts, il se retrouve à affronter un collègue devenu l'ennemi que dans les deux dernières périodes, en fait. Hein. C'est-à-dire quand il affronte Alec Trevelyan, là c'est GoldenEye, les débuts de Brosnan, et quand il affronte Raoul Silva, donc là c'est dans Skyfall. Bon, si on exclut le cas de Georgi Koskov, qui est d'ailleurs pas tout à fait un ami, c'est une relation. On sent bien d'ailleurs que Bond, on est dans Living Daylights, a des doutes assez vite hein, sur ce soi-disant transfuge qui en réalité est un vulgaire vendeur d'armes, enfin ça a coquiné en tout cas à un vendeur d'armes. Donc finalement ce renversement des alliances, hein, pour terminer là-dessus, je te laisse la parole bien sûr après, c'est à la faveur en quelque sorte hein, des femmes. Même si la figure qui va ressortir le plus, enfin il y en a peut-être deux, mais parmi les femmes, c'est Ektra King, et parmi les hommes, ça va être Christatos Colombo, qui sont successivement alliés, puis ennemis, ou inversement, ennemis, puis alliés.
D'ailleurs, j'en profite parce que j'avais en tête aussi, quand on évoquait le sujet des renversements d'alliance, des ennemis qui deviennent alliés, et là, souvent, c'est plutôt les femmes d'ailleurs, hein. On a Pussy
Oui.
Galore, la plus emblématique et la plus charismatique, je pense, des James Bond Girls, par la fonction qu'elle a dans le film, la proximité qu'elle a avec Goldfinger et le rôle qu'elle joue, même si c'est un peu téléphoné sur la fin, dans le dénouement de l'intrigue autour de Fort Knox. Mais ça fait partie, je pense, de cette légende de James Bond, où tu as toujours cette bascule qui s'opère entre des personnages qui sont présentés d'une certaine façon, bénéfique, maléfique, au début du film, qui évolue au contact du personnage principal ou qui les dévoile à son contact leurs véritables intentions. Et c'est ce qui fait aussi un peu le sel de James Bond, c'est-à-dire que tu as peu de surprises parce que tu sais que c'est présent dans la franchise. Donc c'est toujours, on en revient à ce que disait Echo, hein, on en parlait en aparté, mais le fait de c'est satisfaisant pour le spectateur, ou lecteur, de deviner ce qui va se passer, et donc il faut savoir l'instiller un peu, le distiller même dans le support pour que on parle à l'intelligence, on flatte l'intelligence du lecteur, du spectateur. Mais en même temps, c'est quelque chose donc à la fois de satisfaisant, de rassurant parce que les codes sont respectés, et dans la plupart du temps, même, alors moi je suis pas un grand fan de Sophie Marceau dans James Bond, et la période Pierce Brosnan
Moi non
est pas
plus.
ma période préférée, même si j'ai trouvé des choses très positives à GoldenEye. C'est un élément que j'aime bien chez James Bond, ce côté, même si c'est très répétitif quand on voit plusieurs à la suite, je te dis, il y a quelque chose de rassurant, quasiment. Ouais, quasiment quelque chose qui tient du fait que bah, c'est de la madeleine de Proust, comme dans l'enfance, c'est comme ça. Il trahit un moment quelqu'un, ou alors il retourne une alliance, et c'est moi je voilà, ce renversement d'alliance, je pense que c'est un point nodal dans la construction narrative des James Bond, qu'on retrouve effectivement dans les deux sens.
Alors je suis d'accord. Alors sur Pussy Galore, c'est vrai que j'ai pas pensé à en parler, mais comme c'est pas un vilain au sens propre, simplement une auxiliaire. Mais tu as raison, là c'est quand même un cas un peu particulier qui d'ailleurs a été largement commenté parce que rien que son nom déjà qui a été choisi par Ian Fleming, très particulier. Et puis c'est quelqu'un qui a une orientation sexuelle que James Bond va remettre en cause. Donc là on est sur des choses qui sont assez assez particulière, pour ne pas dire critiquable, mais il est vrai que c'est une manière aussi, on peut le voir comme ça, en tout cas, une manière de peut-être de symboliser ce que tu disais, c'est-à-dire le fait qu'au contact de James Bond, et on ne parle que de personnages, on ne parle pas de personnes réelles, bien entendu, il y a des renversements, il y a des changements. Alors le renversement d'orientation sexuelle, c'est peut-être quand même aller loin, parce que le présupposé est gênant, le présupposé, c'est qu'il y a une orientation qui serait peut-être la norme. Bon, ça, évidemment, c'est
Les années
peut-être
60 encore,
davantage.
hein.
Oui, alors, peut-être davantage
Pour
associé à la mentalité de
expliciter.
l'époque. Heureusement que la mentalité évolue à ce sujet. Mais par ailleurs, il s'agit d'un personnage dont la posture change, hein, au-delà de l'orientation sexuelle, c'est-à-dire sa posture par rapport au complot fomenté par Goldfinger. Et sans ce changement, c'est comme tu disais, c'est nodal à ce moment-là, c'est vraiment un nœud scénaristique. Sans ce changement, la fin ne serait évidemment plus la même. C'est facile de réécrire un scénario après coup, mais là, en l'occurrence, c'est quand même vrai. Bon, après, je pense que on en arrive comme ça tout naturellement au pilier, parce que la Bond Girl, c'est un pilier. On l'attend, qu'il y en ait une, qu'il y en ait plusieurs, qu'elle soit d'abord alliée ou pas, et que ça change après. On l'attend au même titre que d'autres piliers. Et je crois que là aussi, on est sur donc c'est notre troisième schéma, sur un schéma qui permet de réinterpréter ou d'interpréter plus modestement la façon dont les méchants, les vilains sont posés. Je crois que Bond évolue dans un univers défini par ses piliers. Alors en tout cas, c'est très fort dans les films, ça l'est quand même moins dans les romans. D'autant plus qu'il y a notamment un roman qui fait vraiment exception à la règle, c'est The Spy Who Loved Me, où James Bond est très peu présent. D'ailleurs, il n'a pas été écrit que par Ian Fleming. Mais dans les films, on joue avec ces piliers. Tu évoquais GoldenEye, c'est précisément un film qui joue un peu avec ça, avec la virilité de James Bond, à travers quelques remarques assez forte, hein, de M à son égard, mais il est inévitable d'y revenir, parce qu'il y a deux raisons. La première, elle est assez commerciale, on ne va pas perdre le spectateur, sinon on ne va pas faire d'entrée, tout simplement. La deuxième, elle est peut-être un peu moins commerciale, peut-être un peu plus artistique, ne pas dénaturer de trop la licence, que certains d'ailleurs appellent même un mythe moderne à l'heure actuelle. Et je crois que si on veut travailler sur les piliers, enfin travailler, c'est peut-être un peu pompeux de dire ça, mais voir comment les piliers s'associent aux méchants et s'il y a donc là un angle d'attaque, je crois qu'il y en a deux en fait. D'abord, on a la triade qui est quasi systématique, QG, hein, ou base, ADM, hein, les armes de destruction massive, et l'auxiliaire. L'auxiliaire au sens de homme de main, personne qui va aider, allié du vilain. Cette triade, enfin, elle associe en principe l'antagoniste, donc le QG a une base très clairement positionnée comme, enfin positionnée, présentée, définie comme telle. On parlait du volcan tout à l'heure, bon ben voilà, j'en ai sur vraiment la base classique. Une arme, donc, qui offre des moyens de gesticulation, c'est-à-dire, alors là on n'est pas sur une gesticulation diplomatique évidemment, mais une gesticulation, c'est-à-dire les moyens de créer des craintes quand même, au niveau parfois, le niveau étatique en l'occurrence. Et derrière ça, on a un ou deux hommes de main, rarement plus. Je parle pas des sbires, hein, qui peuplent la base. Là, c'est encore autre chose et qui font largement de tapisserie, qui servent à la fin à ce qu'on montre que James Bond et sa troupe arrivent à en tuer un maximum. Là, on est encore sur You Only Live Twice. Alors, cette triade, elle apparaît beaucoup, d'une manière ou d'une autre, dans la moitié des films, hein, 12 sur 24, si on veut faire un décompte précis. Le pilier de l'auxiliaire, il est toujours vérifié. Or, même s'il a tendance à disparaître ou à être plus léger pendant la période Craig, c'est d'ailleurs aussi la période où le pilier du QG est abandonné, dans 3 films sur 4 en tout cas, ce qui est beaucoup, mais c'est aussi lié à la volonté de renouveler, à mon avis, la licence à ce moment-là, qui a donné lieu notamment au duo Casino Royale Skyfall, qui, à mon avis, fait partie des meilleurs films de la licence. L'ADM, donc l'arme de destruction massive, le plus souvent elle renvoie à l'arme nucléaire. Bon, c'est inévitable, James Bond est né et littérairement et scénaristiquement pendant la guerre froide. Et l'équilibre de la terreur, c'est pas une expression, ça a été quelque chose qui a été vécu à travers un certain nombre de crises. Quand même, le premier James Bond sort au cinéma en 62. 62, c'est la crise de Cuba, l'une des plus importantes de la guerre froide. Alors, l'arme nucléaire, ça peut être une bombe, ça peut être un réacteur, ça peut être une bombe nucléaire, ça peut simplement être la capacité à agir dessus. Docteur No, par exemple, lui, il agit. Alors, pas véritablement sur une arme, mais pourquoi pas aussi, il peut agir sur des lanceurs, pour être précis. Ce n'est un autre type d'arme, c'est-à-dire non nucléaire, que dans deux cas, à ma connaissance, hein, si je ne fais pas d'erreur, c'est un laser, dans Diamonds Are Forever, donc un Bond à part aussi, à plus d'un titre, on l'évoquait un peu tout à l'heure, et un rayon de chaleur dans Die Another Day, où là on est sur une modernisation, et un film un peu particulier, parce que je pense que Die Another Day, il a été vécu un peu comme un inventaire avant passage de relais, hein, si j'ose dire. Et on a l'impression qu'ainsi les enjeux évoluent avec le contexte, parce que on parlait de la rupture, alors relative mais quand même, de GoldenEye. On est aussi sur un changement de contexte. GoldenEye, on est en 1995, donc on est bien après la guerre froide. On est même 10 ans après l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev. Donc les choses ont complètement changé. Même si GoldenEye, paradoxalement, fait tout son pré sa séquence pré-générique à l'époque de la guerre froide. Bon, mais on a l'impression qu'avec la succession des périodes, la volonté de domination le cède au terrorisme. On n'est plus sur des mégalomaniaques qui veulent éventuellement maîtriser des armes pour ensuite dominer le monde, ou alors en tout cas le monde occidental, parce que c'est souvent ça, oriental uniquement dans You Only Live Twice. Mais on aboutit à des choses plus inquiétantes, plus actuelles, moins fantaisistes, donc le terrorisme, et on sent que les enjeux se posent différemment. C'est le pétrole encore dans The World Is Not Enough, c'est l'eau dans Quantum of Solace. Et d'ailleurs,
Exactement, oui.
avec cette séquence étonnante, où on reprend l'idée de la femme, la Bond girl, pas forcément principale, mais peu importe, qui est tuée pour avoir été recouverte d'une substance symbolique d'une certaine valeur, c'était l'or chez Goldfinger, puisque c'est son obsession, c'est le pétrole dans Quantum of Solace pour créer le doute, c'est-à-dire faire croire que c'est précisément ça l'enjeu, alors que non, c'est bien l'eau et la maîtrise de terre a priori sans intérêt, mais sous lesquelles on trouve de l'eau. Je pense que cette triade, voilà, elle est importante, elle revient régulièrement, on joue parfois avec, mais c'est systématiquement pour la reposer au moins un film sur deux. Quelle que soit cette évolution qui est nécessaire, parce que quelque part, on ne peut pas aller voir un James Bond actuel qui serait complètement replanté, si j'ose dire, dans les années 60. OSS 117 l'a très bien fait, mais à ce moment-là, grâce à l'humour. Deuxième possibilité du jeu avec les piliers, à mon avis, deuxième et dernière, donc seconde, c'est la mégalomanie que j'évoquais déjà à l'instant et la mort de l'antagoniste. Alors, je pense que là, on est aussi sur une question d'image. Parce que beaucoup de spectateurs, tu disais, c'est peut-être aussi lié à l'âge qu'on peut avoir, à l'enfance qu'on a pu avoir et à la façon dont on a accédé à ces films. Beaucoup de spectateurs s'imaginent l'antagoniste un peu comme un savant fou. Je me rappelle que Sam Mendes avait été interrogé à l'époque de Skyfall, de Tête, peut-être de Spectre, enfin bon, peu importe. Et on lui avait demandé comment, enfin s'il avait envisagé de devenir un Bond, comment il y était venu. Et lui disait que Bond, il l'avait quand même un peu connu pendant les années 80 et que c'était un repoussoir cinématographique. C'est-à-dire que pour lui, les Bonds façon Roger Moore, voilà, on était sur des caricatures, sur des choses pas très intéressantes, voire destinées à un autre public que celui qu'il représentait à ce moment-là. Je crois que le cliché, il a été créé largement hein, dans les années 60 et 80 avec le. Alors je dis le savant fou, c'est peut-être pas très heureux. En tout cas, quelqu'un qui a la volonté de dominer le monde et qui, au final, est éliminé par le héros, parce que c'est la morale aussi qui l'impose. Ces motifs, est-ce qu'ils sont véritablement ceux-là? En réalité, non. Quand on regarde le détail, on est bien sur une sorte de cliché. Ils sont bien plus souvent lucratifs, tout bêtement, 10 fois sur 24, alors que c'est 6 fois sur 24 la domination du monde. Et n'oublions pas que Spectre, dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'extorsion, son objectif final. C'est pas la domination du monde. Et la mort, pour revenir à ce deuxième point du vilain, elle est causée par Bond dans seulement la moitié des cas à peu près, hein. Pas davantage. Tout à l'heure d'ailleurs, on évoquait la mort de Christatos. Elle est provoquée par Colombo, c'est pas par Bond. Donc, il peut très bien être assassiné ou éliminé pour être plus politiquement correct par un autre personnage. C'est aussi la Bond girl qui peut intervenir pendant la période de Connery la zombie deux fois. On est quand même dans les années 60, hein. Deux fois, c'est la Bond girl qui tue le vilain. Parfois, le vilain n'est aussi que blessé. Alors, c'est pas courant, c'est que trois fois sur 24, mais c'est systématiquement Blofeld. Alors,
Oui.
on peut aussi avoir un doute. sur le personnage joué par Amalric que tu évoquais tout à l'heure, qui lui serait laissé dans le désert, mais il est clairement tué en réalité, puisqu'il est laissé dans le désert sans eau ni rien, bon bah c'est l'équivalent d'un
Avec une
assassinat.
bouteille de pétrole, enfin d'huile, je ne sais plus. Je crois
Oh,
que
je crois qu'il lui
c'est de
donne
l'huile.
un peu d'huile.
Une bouteille d'huile de moteur hein,
Voilà, c'est ça, de l'huile de
que
moteur.
brûle
Donc
Juliette.
évidemment, avec de l'huile de moteur en plein désert, là, ça va être compliqué, à moins d'être un spécialiste de la survie, et encore. Et je crois pas que ce soit le cas du personnage joué par Amalric. Loin de là. Mais après, si on regarde un peu les détails, puisqu'on parle d'huile de moteur, est-ce qu'il est tué par balle ou pas? Oui, plutôt par balle. Bon, c'est normal. Hein. Bond, c'est aussi le Walter PPK, donc on est sur un pilier, hein, là aussi. 6 fois sur 24, hein, j'avais fait quelques comptes, hein, là je sais pas de mémoire,
Ouais.
et donc ça ramène au symbole de l'arme qu'on trouve partout, y compris dans le logo hein, 007, choisi par Eon. Et alors sinon ça peut être une chute, et on y pense un peu moins, quand même 5 fois sur 24, alors on peut quand même avoir en tête hein, la fameuse chute de Goldfinger qui lui part donc jouer de la harpe avec les anges, hein, c'est pour reprendre l'expression de Sean Connery traduite en français, suite à une
Il est
dépressurisation
aspiré en
de
dehors
son
de
avion.
par la dépressurisation de la cabine, c'est ça, hein,
Voilà, absolument, oui.
oui.
Et je crois que là aussi, on est sur une forme de morale. Enfin, c'est ce qui est peut-être un peu dommage, mais enfin bon, c'est le choix des scénaristes. La chute, c'est très symbolique. C'est quelqu'un qui a voulu aller trop haut. Goldfinger, c'est clairement ça. Hein. C'est un peu l'Icare hein, des vilains qui se présente comme le premier artiste criminel, celui qui va vraiment dépasser toutes les limites, le génie criminel. C'est le premier à vraiment revendiquer cela, je pense, dans la licence, et qui finalement va trop loin et qui se retrouve face à la confrontation quasi divine avec les éléments, je pense, symbolisés par James Bond. Je vais peut-être un peu loin, mais la chute, elle est réelle. C'est-à-dire que lui va vraiment mourir quand on sort d'une cabine dépressurisée. On n'a même pas besoin de mourir à cause de la chute. Hein. Généralement, on meurt à cause de la température qui, évidemment, n'est pas la bonne à une certaine altitude. Voilà, donc je pense que ces piliers,
Ouais.
on les retrouve régulièrement, d'une manière ou d'une autre, que ce soit la triade QG auxiliaire, la mégalomanie et la mort de l'antagoniste, mais pas toujours, pas systématiquement, et je crois qu'ils ont créé d'une manière ou d'une autre des clichés qui en fait s'avèrent assez faux. Hein. Quand on regarde un peu le détail, on n'est pas systématiquement dans la mégalomanie. En revanche, il est vrai que la fameuse base, on la trouve beaucoup, mais elle est quand même datée, c'est-à-dire que c'est une certaine période. Hein. Le volcan de Yone Live Twice, il a quand même pas grand-chose à voir avec le disco volante de Largo hein, dans Thunderball. Et la base ensuite se retrouve beaucoup hein, dans les Moors. Et c'est peut-être aussi pour ça que Spectre a créé dans une certaine mesure de la déception, parce qu'on retrouve la base à la fin, en tout cas, du film. Et donc quelque chose qui ramène à une version peut-être un peu passée, un peu comics aussi, je crois, de la licence.
Ouais, moi ce que je remarque, enfin c'est ce que tu as décrit pour Goldfinger, hein, c'est cette hubris que porte finalement la chute du méchant autant que du héros, qui donne lieu à cette espèce de confrontation. Goldfinger, c'est un personnage qui, quand tu parles de ce criminel revendiqué comme un artiste, un génie criminel, moi il m'a fait beaucoup penser quand je l'ai encore revu récemment. Au personnage de Moriarty, cette
Ah oui.
revendication de la supériorité de l'esprit du criminel sur le reste de la société, qui fait que le criminel s'en sortira et qu'il s'enrichit ou il domine dans l'ombre ou de façon plus visible, parce qu'il a cette capacité intellectuelle supérieure, cette espèce donc, de démesure et de cette mégalomanie, on retombe dessus, hein, et certains vont vouloir. Comme Goldfinger l'affirmait, d'autres, comme Blofeld, vont être plus dans la dissimulation, dissimulation toute relative, parce que dans les manœuvres de Blofeld, notamment dans Thunderball, Opération Tonnerre en français, repris dans le film Non Éon, là, qui est Jamais
Ah,
plus jamais,
Never Say Never Again.
on a la revendication et le chantage, l'extorsion, hein, c'est une des marques de fabrique mais l'extorsion quasiment urbi et orbi. On prend à partie les grandes nations pour leur dire vous êtes sous la menace d'une arme nucléaire cachée. Si vous voulez pas que cette arme nucléaire explose, vous explosionnez, hein, soit à Londres ou à New York, il faut que vous versiez une rançon phénoménale. Hein, on retombe un peu sur l'idée aussi qu'il y a dans la parodie qui est le film avec Mike Myers, Austin Powers,
Ah oui, Austin Powers.
et qui lui cumule ces espèces de signaux qui jalonnent la plupart de enfin la grande partie des films de la franchise de James Bond. Moi, c'est quelque chose que je trouve toujours très intéressant de voir comment les parodies ou les pastiches s'approprient les certains éléments même de caricature de franchise comme James Bond, parce que c'est un vrai sujet en soi. J'aime beaucoup la façon dont toi tu poses la question de ce triptyque avec les armes de destruction massive, qui fait très guerre froide, hein, pour le coup,
Oui,
et que
absolument.
on a du mal à renouveler dans le modèle actuel de société, parce qu'on a plus ce problème-là, même si aujourd'hui les armes de destruction massive sont un sujet qui reste présent, mais ils sont moins présents parce qu'il n'y a plus cet antagonisme de peur de destruction mutuelle entre les deux grands blocs civilisationnels. Et c'est peut-être le nouvel ennemi, en fait, de James Bond. C'est les ennemis que se crée l'humanité. C'est-à-dire la pénurie d'eau, la pollution, les différents, la faillite de certaines sociétés, hein, dans Quantum of Solace. Quand l'action se passe à Haïti, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a une société qui a failli, enfin un État complet qui a failli, avec une population qui souffre énormément, mais où fait son nid une organisation secrète comme Quantum. Moi, je suis très, 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 très sensible à ce retournement de situation, cette modernité de James Bond. Et je voulais, parce que j'ai parlé un tout petit peu là d'Amalric et de parodie, parce que moi, il y a quelque chose qui m'a chiffonné beaucoup dans le jeu d'Amalric, notamment sa confrontation physique avec Daniel Craig,
Ben oui. C'est
il en
Green,
arrive à
son
se
personnage, je
planter
crois, c'est
une.
Dominic Green, je crois.
Oui, c'est ça, son prénom, c'est
Oui,
Dominic
c'est
Green.
ça.
D'ailleurs, c'est d'autant plus drôle avec la référence à la couleur verte,
Oui.
c'est son. C'est le mec qui se plante une hache dans le pied en
Oui.
essayant de battre contre James Bond. Et moi, ça m'a rappelé le magnifique, parce qu'on va faire un petit hommage à Jean-Paul Belmondo, avec
Ah, avec
Karpov.
plaisir.
Le combat entre Karpov et Sinclair, pour moi, c'est le
Oui.
combat entre Amalric et Daniel Craig, quoi.
Ah oui, bien vu, oui, j'avais pas pensé à cette relation, mais c'est vrai qu'on peut faire un vrai parallèle, tout à fait. Ah, c'est vrai que
C'est
ce combat est
un
quand
vrai.
même pas très réussi. Moi, en le voyant, la première fois en tout cas, j'ai pas fait le parallèle avec Belmondo, mais merci à toi de faire ce clin d'œil bienvenu, mais j'avais pensé un peu au combat entre Max Zorin et puis le James Bond de Roger Moore, qui était aussi un peu décevant parce qu'on est sur un lieu très compliqué, on est sur le Golden Gate, là où il y a aussi une hache. En plus, la façon dont Zorin ou Zorin, peu importe la manière dont on prononce son nom, se présente ressemble un peu à celle de Dominic Green. Et puis finalement, le combat était plutôt ridicule là aussi. Bon, je trouve que c'était, je sais pas si ça a été voulu hein, de refaire ce combat-là, mais je crois que c'est dommage d'avoir fait de Dominic Green ce qu'il est finalement, parce que Matthew Amalric était quand même un acteur de premier ordre. Et je pense que là, on aurait pu
Complètement.
avoir un personnage profond, vraiment compliqué. Mais en même temps, Quantum of Solace, ça a été mis en chantier très très vite. Pour la première fois, on a voulu faire une suite directe à un James Bond qui avait très très bien réussi. Je crois que là, on était allé un peu vite en besogne. Et heureusement que derrière, qu'on a eu Skyfall qui nous rassurait tout de suite.
C'est
Est-ce
d'ailleurs
que tu penses...
ce qui donne
Pardon, excuse-moi.
Ouais, c'est d'ailleurs ce qui donne une espèce de rythme, une courbe sinusoïdale au
Ouais.
cycle Daniel Craig, avec des hauts et des bas,
C'est ça.
Casino Royale qui part très fort, Quantum of Solace qui s'effondre, ensuite Skyfall, et ensuite Spectre
Ouais, t'as
qui
raison.
refait retomber le soufflet.
Alors, si on suit
On
la logique,
espère
on
que
va
No
avoir
Time
un
to
très
Die
très
sera.
bon No Time to Die, hein.
J'espère qu'on peut souhaiter que ça, parce qu'on l'attend depuis quelque temps déjà.
Ouais,
Donc, je t'ai
j'espère,
coupé,
j'espère.
poser une question.
Et non, mais est-ce que tu penses qu'on a le temps de parler du quatrième schéma tout à l'heure, j'hésitais à l'évoquer. Eros Thanatos?
On va le prendre.
Bon, alors
On est
on
lancé, on y
j'essaie
va.
d'être pas trop long et d'éviter peut-être les chiffres, mais je pense que ce schéma il est intéressant. Alors je l'ai pas inventé, de toute façon. Est-ce qu'on invente vraiment des choses quand on commente ou quand on essaie d'interpréter? Je ne crois pas. J'ai largement emprunté à Umberto Eco, auquel je reviendrai peut-être tout à l'heure si on a encore 2 minutes. Je pense que le schéma Eratosthénès, qui est quand même un classique, hein, c'est une dichotomie qu'on retrouve dans la littérature. Il est évident, hein, chez James Bond, déjà, si on s'en tient simplement à son surnom, Mr. Kiss Kiss Bang Bang, qui est repris d'ailleurs, c'est le titre d'un morceau qui a été composé pour Thunderbolt de Tate, donc il est repris à ce moment-là. Mais je crois que, au-delà, on est quand même en train de parler des vilains, ces antagonistes peuvent aussi associer opposition à attraction. On va être sur de drôles de schémas parfois entre Bond et son ennemi. On sait qu'il peut y avoir des syndromes qui se produisent chez Stockholm par exemple, mais là on est sur quelque chose de très récurrent et on n'est pas sur une relation entre un otage et la personne qui l'a pris en otage. Je crois qu'il y a 3 cas essentiellement. D'abord la Bond Girl, ou alors un personnage féminin, parce que la Bond Girl, il n'y en a normalement qu'une par film. Et là, on évolue, hein, sur des choses étonnantes, c'est-à-dire est-ce que la Bond Girl a un rapport particulier au vilain? Là, donc, en dehors de James Bond ou évoluant au contact de James Bond, ben, on a d'abord une relation homosexuelle, alors qui est légèrement posée dans le film, beaucoup plus fortement dans le roman, c'est Rosa Klebe, Tatiana Romanova, dans From Russia with Love. Sachant qu'elle n'est pas, réciproque, parce que c'est Rosa Klebe qui est intéressée par Tatiana Romanova, la réciproque est largement fausse. On a autrement un rapport paternel, peut-être un peu douteux, entre Christatos et Bibidal dans For Your Eyes Only. Christatos est présenté comme une sorte de parrain, Bibidal est très jeune et on sent qu'à un moment donné, elle lui reproche de vouloir des choses qu'elle n'est pas prête à lui donner.
C'est
Ou
assez
alors,
flagrant.
on peut avoir. Oui, pardon?
Non, c'est assez flagrant, en fait.
Oui, je crois que ouais, c'est à peu près clair, surtout qu'elle s'intéresse plus à James Bond parce qu'il est un peu plus séduisant, enfin en tout cas il est présenté comme tel, le spectateur a jugé ou jugera, je ne sais pas. Sinon, on a aussi quand même l'idée que l'antagoniste vit un amour non réciproque ou annulé par Bond à son profit. On est toujours sur la Bond Girl, hein, là, par exemple dans Live and Let Die, Solitaire, qui est vraiment couvé, hein, par... Le Mr. Big, le vilain principal, n'est pas du tout prête à perdre son pouvoir de clairvoyance en s'adonnant à ce que Mr. Big lui propose à terme. Par contre, il n'y a pas de problème avec James Bond, que ce soit d'ailleurs dans le roman ou dans le film. Et là, on sent bien que cet amour non réciproque, il est exploité, annulé, utilisé par Bond à son profit, sachant que Bond promet rarement, hein, un avenir très très long aux relations qu'il se fait, aussi bien dans les romans que dans les films. Deuxième possibilité, je pense, dans ce schéma Eratosthénès, c'est avec l'auxiliaire. Est-ce que le vilain a des rapports particuliers avec son auxiliaire? La réponse est oui. Alors là, on a tout un éventail encore plus vaste. On a la relation réciproque. On la voit très clairement entre Blofeld et Irma Bunt dans Her Majesty's Secret Service. Même si en fait on le voit encore plus clairement dans le roman You Only Live Twice, là ils sont quasiment, c'est un couple en fait, hein, dans le roman. On a la relation déséquilibrée, alors réciproque peut-être, intéressée peut-être aussi. Je pense à Max Zorin et Mayday dans A View to a Kill. On sent bien qu'il y a un amour, hein, de la part de Mayday pour Max Zorin, qui est d'ailleurs déçu à la fin, et c'est pour ça que Max Zorin ne va pas aboutir. Et on est autrement sur des relations peut-être un peu plus saines, filiales. Je crois que dans License to Kill, il y a vraiment quelque chose entre Franz Sanchez et Dario, du père au fils, père et fils adoptif, bien entendu, ou alors la relation fraternelle. Et là, c'est plus rare, ça. On la trouve avec Gustave Grace, je pense, et Zhao. On sent bien que c'est des frères d'armes, peut-être des frères de sang, mais qu'il y a une relation forte entre deux, au point que tous les deux vont vouloir changer de visage, et on sait que Zhao, ça va pas fonctionner, mais qu'ils se reconnaissent malgré tout, qu'ils sont liés malgré tout. Et je pense qu'ensuite, la dernière déclinaison en fait de ce schéma, c'est la relation de Bond avec le vilain. Cette fois-ci, c'est plus le vilain avec la Bond Girl, un personnage féminin ou son auxiliaire. Là, on est avec le héros. On a plusieurs formules possibles. On a, dès le début, dès le premier film, un intérêt professionnel déclaré. Docteur No dit bien à James Bond qu'il est déçu, finalement, après le repas qu'il lui a offert, et que Bond n'est qu'un vulgaire policier, il s'attendait à autre chose. Donc il y avait clairement un intérêt, et cet intérêt d'ailleurs s'exprime par le fait que Bond soit sauvé par Docteur No des terres qui sont radioactives. On a sans cela la relation fraternelle. Donc là, on la trouve dans GoldenEye, par exemple, avec la relation que Bond a instaurée avec Trevelyan, qui forme un duo très efficace dans la séquence pré-générique. Et puis la relation homosexuelle. Là, on est dans Skyfall avec Raoul Silva. On sent bien hein, qu'il y a quelque chose entre les deux hommes. Alors, qu'est-ce que c'est réciproque ou pas? Je crois que la question est ouverte. Elle n'est peut-être pas très intéressante non plus. Mais Silva, clairement, éprouve quelque chose de particulier hein, pour James Bond. Et l'antagoniste masculin, là, dans ce cas-là, il est masculin, souffre systématiquement hein, de son inclination pour James Bond d'une manière ou d'une autre. Ou alors, va en souffrir. C'est-à-dire qu'il est déçu ou alors il va le payer très cher. On peut avoir aussi une relation forte avec Bond et l'antagoniste, enfin le vilain, le méchant, quand c'est une femme. Là, je repense de nouveau avec Hacking, même si je suis d'accord avec toi, c'est peut-être pas la Bond la plus intéressante. Le personnage, en fait, utilise James Bond. Est-ce que James Bond s'en rend compte tôt ou tard? Bon, c'est plutôt tard, hein, d'après le scénario. Et dans les deux cas, on cherche à aboutir à ses fins à travers la relation amoureuse. Et d'ailleurs, Electra King a déjà utilisé ce moyen avec Renard, puisque visiblement, il y a un quiproquo dont elle joue. On croit que c'est Renard qui utilise Electra King, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Alors, dans les romans, on l'évoquait tout à l'heure, on est aussi hein, sur un schéma Eros Thanatos récurrent. Et là, je vais laisser parler Umberto Eco, puisque c'est lui qui en a parlé le mieux et le premier. Je crois que l'article, c'était un de ces articles des années 60 sur la combinatoire narrative. Et il évoquait que les principes de plaisir et de réalité étaient tout le temps associés dans le rapport de James Bond au vilain. Et l'exemple qui est le plus marquant de ceux qui l'utilisent, c'est la torture d'un Casino Royal. On est sur une torture très particulière, qui touche une partie du corps très spécifique. Et c'est posé de telle sorte dans le roman qu'on sent qu'il y a du plaisir, en fait, hein, d'éprouver par le vilain, peut-être par James Bond, peut-être pas. Bon, c'est écrit d'une manière, en tout cas, qui laisse créer un doute. Et ce principe de plaisir et de réalité qui sont associés, on l'a aussi encore plus, hein, entre le vilain et la Bond Girl, en particulier quand la Bond Girl est opposée au vilain à un moment ou à un autre. On sent bien, par exemple, dans Thunderball, que Domino Derval et Largo sont des amants, en tout cas une relation probablement charnelle, forte, s'est posée relativement de manière pudique, mais cette relation se renverse quand Domino apprend par James Bond que son frère a été assassiné, probablement sur les ordres de Largo, et là on est une fois de plus sur Eros Thanatos. Mais de nouveau sur un jeu de renversement, alors pas des alliances, mais pas loin en fait, puisque
Ah, on n'est pas
Domino
loin là,
était
oui.
presque une alliée hein, de Largo.
Elle était à la fois un espèce de trophée, d'allié, de
Oui,
moyen de pression.
de garantie
Elle
absolue,
joue
voilà.
plusieurs rôles hein, dans le film. Et c'est un film que j'aime beaucoup, moi,
Oui, oui, oui.
Thunderball. Son introduction est mémorable, même si elle est un peu, enfin, elle a un côté un peu carte postale, pour le coup,
Oui, mais c'est le
dans
château
cela.
d'Annette, alors elle est forcément
Ouais.
mémorable, parce que là, on est en France et c'est un magnifique lieu.
Ça, et puis le clin d'œil avec ce fameux agent de Spectre qui meurt et qui prend les traits de la veuve éplorée
Ah oui,
et
Jacques
qui, en
Bouvard.
fait, Jacques Bouvard, et qui est joué par l'acteur qui est le cascadeur officiel de James Bond
Ouais.
dans les films précédents et qui est la doublure, c'est lui qui est le personnage qu'on voit se dessiner et qui tire au pistolet dans la scène dans la petite vignette d'intro à chaque fois.
Oui, absolument, tu as raison. Ah oui. Oui, c'est un
C'est
joli clin d'œil.
un joli clin d'œil pour ce personnage, enfin pour cet acteur qui avait auditionné pour être James Bond et qui a pas été retenu, et qui a été retenu comme doublure, comme cascadeur, et qui a quand même été un peu James Bond quelque part. Donc voilà, ça c'était pour donner une petite touche aussi à cette série de réflexions qu'on a pu mener tous les deux ce soir. Je te remercie pour ces échanges
Avec plaisir.
super intéressants. Très enrichissant.
Oh, bah, tant mieux.
détaillé et très argumenté. Et j'étais sûr que ce serait de ce niveau-là. J'espère que les uns les autres auront pris autant de plaisir que moi j'en ai pris à échanger et à t'écouter, parce que
J'espère
c'est
aussi.
un sujet que moi et que j'adore, hein, James Bond. Je suis depuis tout petit très grand amateur de la franchise. J'avais usé les VHS de Vidéoclub et puis ensuite enregistré pendant des années. Toutes les années 80-90 ont été passées à scruter les trois
Alors, j'ai
premiers. Enfin,
connu ça.
voilà, hein, c'était la grande époque où on pouvait se faire plaisir en voyant pas grand-chose, hein, parce qu'au final, sur une VHS, on loupe plein de détails.
Ouais, ça
Hein, on s'en rend
s'abîmait
compte.
beaucoup, hein.
Et donc, c'est un truc que j'ai pu redécouvrir après dans les années 2000 avec les progrès des disques et de l'optique, mais voilà, c'est un bon moment de plaisir avec des personnages qui ont ressurgi de mon enfance, notamment Max Zorin, Médée,
Ah oui.
Colombo et Christatos. Je te remercie encore une fois pour
Je
ce
t'en prie avec
temps
plaisir.
passé ensemble. Je te donne rendez-vous probablement sur Figaro Pop pour parler de Nanar ou d'autre chose, vu
Bien sûr.
qu'on a pas mal. On en a bien profité de ces échanges aussi, mais plutôt écrits. Et à l'oral, ce sera un autre moment qu'on pourra partager
Ben,
avec
d'accord.
probablement d'autres membres de la rédac sur un sujet peut-être Bond, peut-être un autre, on verra.
Peut-être bon, peut-être
Dans
autre
les...
chose. Ah, je suis d'accord avec toi. On
ah,
laisse le
on va se
suspense.
laisser le temps de... Ouais, exactement. Je t'en remercie encore.
Mais je t'en
Merci,
prie.
au revoir.
Merci, au revoir.
Bon, bah, c'était pas mal. Hein?
Oui, mais écoute, je suis content que tu sois. C'est ça, t'es satisfait quand même, il n'y a pas
Ah
de.
bah moi j'ai adoré, je me suis éclaté, j'étais quand même un
Bon,
petit
bah,
fou à me reprojeter les films, les séquences que tu évoquais dans ma tête. Non, non, puis c'est vrai que sur la partie, il y a une partie, la partie que je maîtrise le moins dans James Bond, c'est les Timothy Dalton.
ah oui.
C'est le creux de la période James Bond. Dans ma vidéothèque et dans ma vie de téléspectateur. Donc,
Ah.
je les ai vus, et d'ailleurs, je crois que j'ai plus lu, j'avais l'adaptation en BD de Tuer n'est pas joué. Non, de License to
Tu n'es
Kill,
pas
le
joué.
permis de tuer.
Ah, le permis de tuer, ouais,
De
d'accord,
License
parce
to
que là, il y a une
Kill. Ouais,
adaptation et du film, en effet, ouais.
que j'avais en BD, donc plus m'imprégner, alors que Tuer n'est pas joué, Living Daylight, je l'ai moins en tête, même s'il y a cette partie Afghanistan qui est assez intéressante et qui m'a
Ouais.
rappelé d'autres choses, bon alors Rambo 3, mais aussi
Ouais.
des films comme La Bête de Guerre
Ah
avec
oui.
Jason Patrick. Je sais pas si tu
Ouais,
connais,
ouais. Ouais, je connais,
mais
ouais.
j'aime.
Ouais, c'est vrai
Mais
que
il
on
y a
peut
cette
rapprocher. Bah,
dépiction,
c'est vrai
il y a
qu'on est à
cette.
un moment où il y avait des doutes, à mon avis, hein, sur la licence. Hein, là,
Ah oui.
c'était inquiétant, hein, ceci. Et puis il y avait la rumeur récurrente d'un nouveau remake de Thunderball, puisqu'à ce moment-là, il y avait même un scénario de prêt, hein, ça s'appelait Warhead 2000 de tête. C'est Kevin McClory qui avait lancé ça, parce qu'il était détenteur des droits sur le mot Spectre, et il voulait refaire ça éventuellement avec un autre acteur. Enfin, tout était très compliqué, et je pense que en 89, hein, de tête, c'était License to Kill qui est sorti. Ça n'a pas été un très grand succès, en plus un James Bond un peu alternatif, qui part en vengeance, hein, donc c'est quand même pas très courant, qui mélange des morceaux pris à différents romans, notamment à Live and Let Die. Et je pense que derrière, la licence a failli s'arrêter, hein, clairement. Puis Timothy Dalton n'était pas forcément très intéressé à reprendre le rôle longtemps, quoi. Il n'avait pas, ça s'était
Non,
pas arrangé
mais
pour, c'était pas un homme de série, hein.
Timothy Dalton, c'est un vrai acteur qui a un côté taciturne. Et qui s'intégrait pas non plus avec l'image qui avait été construite de James Bond pendant les 15 ans précédents, enfin les 10-15 ans précédents avec Sean Connery, avec Roger Moore.
Ah mais clairement, non, mais
Donc
je
on
pense que
était
la
en
rupture, elle
totale
a dû se faire.
dissonance et je pense que ouais, effectivement le public n'était pas prêt.
Non, mais clairement,
Et
c'était
autant
pas le
on a
bon
une
moment.
nouvelle rupture, on a Pierce Brosnan arrive à rajouter du charme, donc ça marche très
Oui,
bien. À mon
oui,
sens.
oui.
Et Daniel Craig a moins ce charme-là, mais il arrive à rajouter une. Alors, il est servi aussi par de très bons acteurs autour de lui et par un
Oui.
scénario solide, une belle mise
Ah
en
bah oui, là, il
scène,
y a
quelque
eu
chose de
beaucoup,
très
c'est vrai.
moderne. Mais il y a quelque chose de très animal dans le son de James Bond.
Ouais. Mais c'était le
jusqu'à
bon
ce
moment
qu'il.
aussi, hein, je pense.
Ouais, complètement. Complètement, complètement. Bon, voilà, bah, écoute, je te remercie, on y est arrivé. Je vais faire le montage cette
Ouais,
semaine.
c'était l'Arlésienne, mais ça l'est
Je
plus. Ah, ça, c'est bien.
suis très content qu'on y soit
Mais oui, mais
arrivé. Et
c'était sûr
je.
qu'on y arriverait tôt ou tard.
Non, mais j'en étais sûr aussi, c'est juste que je. À un moment, quand le sort s'acharne, tu poses des questions. Mais bon, l'essentiel, c'est d'y arriver. Je te
Bien
remercie, je te
sûr.
souhaite une bonne soirée, un très bon
T'en prie, à toi
week-end
aussi.
et à très bientôt.
Bon week-end, à bientôt, Julien.
Merci Nicolas.